test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre Antoine qui parle de ses expériences de camping et de glamping, le camping de luxe. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 8. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Moi, je pratique le glamping depuis un an et il faut dire que je suis totalement ravi et satisfait. En fait, je pense que ce concept, c'est vraiment un compromis génial entre tout ce qui n'aime pas vraiment le concept du camping traditionnel, mais quand même qui souhaite rester en contact avec la nature. En fait, si je dois être franc, je pratiquais le camping traditionnel, je l'ai fait plusieurs années avec ma copine, mais je n'aime pas trop le fait d'être tous à proximité, tous près les uns des autres, tous serrés. Il y a 3 ans, par exemple, j'étais logé dans une tente, dans un camping traditionnel, et à côté de notre tente, il y avait une famille très sympathique avec un bébé. Et le bébé, il a pleuré toute la nuit, et bien sûr, ça a compromis la tranquillité et un peu l'intimité de nos vacances. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie de répéter cette expérience. En plus, vous savez, dans les campings traditionnels, il y a des endroits et des activités en plein air. Il y a des piscines, il y a des animations, des terrains de sport. C'est vrai qu'on ne peut pas s'ennuyer. Mais qu'est-ce que vous faites s'il pleut, s'il y a un orage, s'il y a du mauvais temps? Eh bien, vous ne pouvez rien faire parce que le lieu propose seulement des activités en plein air. Par contre, dans le concept du glamping, il y a toute une série de prestations qui sont haut de gamme. Par exemple, on peut vraiment profiter d'un spa, d'un jacuzzi à l'intérieur. On peut recevoir le petit déjeuner au lit. Donc vraiment, on n'a pas forcément besoin d'être à l'extérieur. Je me souviens, l'année dernière, j'étais dans un petit village de la Côte d'Azur, dans une maison un peu bizarre au bord de mer. Et on avait carrément l'accès à la plage qui était inclus dans la location de notre petit chalet. Donc c'était vraiment génial. Et moi, je trouve que la différence principale entre les deux concepts de vacances, c'est surtout le confort. Le confort, c'est ce que je cherche. Moi, j'aime beaucoup l'aventure, la découverte, la nature, le contact avec la nature, mais je reste quand même soucieux de mon confort. Bien sûr que j'aime l'ambiance gay, conviviale, du camping, parler avec les gens, tisser des amitiés avec les gens, parler les langues étrangères. Mais c'est vrai aussi que je cherche un peu l'isolement. Je cherche ce rester en contact avec la nature dans un endroit qui est vraiment super, qui est équipé, aménagé. Vous pouvez avoir des maisons vraiment insolites au bord de mer, des igloos en bois, des chalets écologiques. Donc vraiment, les structures sont très très équipées par rapport au concept du camping traditionnel. Bien sûr que le tarif n'est pas le même du camping traditionnel, mais quand même, moi, j'ai 50 ans et bien sûr que j'ai envie de me faire plaisir quand j'ai fait mes vacances, de ne pas dépenser forcément une fortune dans un hôtel de luxe. Et donc, je pense que le tarif du glamping reste quand même abordable, il est bon marché, surtout parce que tu as un confort similaire à un grand hôtel. Et en plus, je dirais que avec le glamping, je pratique une forme de tourisme responsable parce que parfois les endroits peuvent être écologiques, on peut être logé dans des chalets écologiques. Moi, je pratique le glamping depuis un an et il faut dire que je suis totalement ravi et satisfait. En fait, je pense que ce concept, c'est vraiment un compromis génial entre tout ce qui n'aime pas vraiment le concept du camping traditionnel, mais quand même qui souhaite rester en contact avec la nature. En fait, si je dois être franc, je pratiquais le camping traditionnel, je l'ai fait plusieurs années avec ma copine, mais je n'aime pas trop le fait d'être tous à proximité, tous près les uns des autres, tous serrés. Il y a 3 ans, par exemple, j'étais logé dans une tente, dans un camping traditionnel, et à côté de notre tente, il y avait une famille très sympathique avec un bébé. Et le bébé, il a pleuré toute la nuit, et bien sûr, ça a compromis la tranquillité et un peu l'intimité de nos vacances. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie de répéter cette expérience. En plus, vous savez, dans les campings traditionnels, il y a des endroits et des activités en plein air. Il y a des piscines, il y a des animations, des terrains de sport. C'est vrai qu'on ne peut pas s'ennuyer. Mais qu'est-ce que vous faites s'il pleut, s'il y a un orage, s'il y a du mauvais temps? Eh bien, vous ne pouvez rien faire parce que le lieu propose seulement des activités en plein air. Par contre, dans le concept du glamping, il y a toute une série de prestations qui sont haut de gamme. Par exemple, on peut vraiment profiter d'un spa, d'un jacuzzi à l'intérieur. On peut recevoir le petit déjeuner au lit. Donc vraiment, on n'a pas forcément besoin d'être à l'extérieur. Je me souviens, l'année dernière, j'étais dans un petit village de la Côte d'Azur, dans une maison un peu bizarre au bord de mer. Et on avait carrément l'accès à la plage qui était inclus dans la location de notre petit chalet. Donc c'était vraiment génial. Et moi, je trouve que la différence principale entre les deux concepts de vacances, c'est surtout le confort. Le confort, c'est ce que je cherche. Moi, j'aime beaucoup l'aventure, la découverte, la nature, le contact avec la nature, mais je reste quand même soucieux de mon confort. Bien sûr que j'aime l'ambiance gay, conviviale, du camping, parler avec les gens, tisser des amitiés avec les gens, parler les langues étrangères, mais c'est vrai aussi que je cherche un peu l'isolement. Je cherche ce rester en contact avec la nature dans un endroit qui est vraiment super, qui est équipé, aménagé. Vous pouvez avoir des maisons vraiment insolites au bord de mer, des igloos en bois, des chalets écologiques. Donc vraiment, les structures sont très très équipées par rapport au concept du camping traditionnel. Bien sûr que le tarif n'est pas le même du camping traditionnel, mais quand même, moi, j'ai 50 ans et bien sûr que j'ai envie de me faire plaisir quand j'ai fait mes vacances, de ne pas dépenser forcément une fortune dans un hôtel de luxe. Et donc, je pense que le tarif du glamping reste quand même abordable. Il est bon marché, surtout parce que tu as un confort similaire à un grand hôtel. Et en plus, je dirais qu'avec le glamping, je pratique une forme de tourisme responsable parce que parfois les endroits peuvent être écologiques, on peut être logé dans des chalets écologiques.
Exercice 2. Vous allez entendre Sophie parler de son séjour en Espagne. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 6 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour, je m'appelle Sophie, je viens de Bretagne en France et l'été, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer mon été au lieu de rester sur mon canapé en partant en Espagne pour apprendre donc l'espagnol et je ne connaissais absolument rien à l'espagnol donc pour apprendre cette langue, ce que j'ai fait c'est je suis partie en tant que fille au pair à l'étranger pour 3 mois. Je suis partie au mois de mai et revenue à la fin du mois de juillet. Au début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Du coup, j'ai découvert la culture espagnole de manière assez brusque, c'est-à-dire je suis sortie de ma famille française pour passer dans la famille espagnole directement. Et là-bas, du coup, les choses qui m'ont frappée en vrac comme ça, ce sont notamment le manque d'intimité que je ressentais parce que les gens de la famille avaient moins de problèmes que les gens de ma famille en auraient eu à revenir directement dans ma chambre sans frapper. Voilà, j'étais habituée à plus d'intimité. Et sinon aussi, au niveau des repas, ils mangent à la même heure que moi le matin, mais ensuite le midi, il fallait attendre 2h30, 3h pour manger. Et moi, j'attendais affamée les 2 dernières heures parce que je suis habituée à manger plus à midi, 13h. 14h, c'est déjà tard pour moi. Alors voilà, du coup, là-bas, c'était la norme. Et bon, le soir, ils mangent aussi très tard, mais là, comme l'enfant devait aller se coucher, je pouvais quand même manger plus tôt. Donc ça allait. Du coup, c'était les repas du midi, en particulier quand on mangeait avec la grand-mère, parce que la grand-mère ne veut absolument pas qu'on commence à cuisiner ou à manger avant que tout le monde soit autour de la table à 15h, voilà, ensemble. Donc ça, c'était un détail pratique, pas très très facile pour moi. Mais j'ai rencontré des gens aussi qui étaient très sympathiques. On pouvait parler directement de plein de choses. Il n'y avait pas de moments où on est timide avant de se connaître. Enfin, on pouvait directement parler, c'était bien. Il faisait très très beau, j'ai pu aller à la plage tous les jours. Voilà, j'ai testé plein de choses à manger, j'ai vu plein de belles choses aussi dans la région. J'étais dans la ville de Pontevedra, en Espagne, donc en Galice. Et je trouve que la ville est très jolie, d'autant plus que le centre-ville est piéton, ce qui est assez rare, et donc tous les matins, tous les gens vont à pied en marchant, et ça fait vraiment, ça rend le centre plus joli, je trouve. Voilà, et pour ce que j'ai découvert sur la culture, sur l'endroit, c'est à peu près ça. Et bon, sinon, si je devais y retourner, je négocierais mieux mes horaires et ce que je devais faire précisément, combien je dois être payée, parce que là, ça n'a pas vraiment été respecté. J'avais pas vraiment d'horaire et je ne savais pas vraiment quand est-ce que je devais aller donc m'occuper de l'enfant, quand est-ce que je pouvais prendre du temps pour moi. Et j'aurais préféré peut-être travailler plus, mais avec des horaires précis, que d'avoir un flou comme ça où je ne sais pas si je dois travailler, si je peux rester dans ma chambre. Parce que bon, ils avaient moins besoin que moi, je crois, d'être tout seul, mais moi j'aime bien aussi de temps en temps être tout seul et faire mes choses, et donc voilà, c'était pas facile. Bonjour, je m'appelle Sophie, je viens de Bretagne en France et l'été, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer mon été au lieu de rester sur mon canapé en partant en Espagne pour apprendre donc l'espagnol. Et je ne connaissais absolument rien à l'espagnol, donc pour apprendre cette langue, ce que j'ai fait, c'est je suis partie en tant que fille au pair à l'étranger pour 3 mois. Je suis partie au mois de mai et revenue à la fin du mois de juillet. Début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Du coup, j'ai découvert la culture espagnole de manière assez brusque, c'est-à-dire je suis sortie de ma famille française pour passer dans la famille espagnole directement. Et là-bas, du coup, les choses qui m'ont frappée en vrac comme ça, ce sont notamment le manque d'intimité que je ressentais, parce que les gens de la famille avaient moins de problèmes que les gens de ma famille en auraient eu à revenir directement dans ma chambre sans frapper. Voilà, j'étais habituée à plus d'intimité. Et sinon aussi, au niveau des repas, ils mangent à la même heure que moi le matin, mais ensuite le midi, il fallait attendre 2h30, 3h pour manger, et moi j'attendais affamée les 2 dernières heures parce que je suis habituée à manger plus à midi, 13h, 14h c'est déjà tard pour moi, alors voilà, du coup là-bas c'était la norme. Et bon, le soir ils mangent aussi très tard, mais là comme l'enfant devait aller se coucher, je pouvais quand même manger plus tôt, donc ça allait. Du coup, c'était les repas du midi, en particulier quand on mangeait avec la grand-mère, parce que la grand-mère ne veut absolument pas qu'on commence à cuisiner ou à manger avant que tout le monde soit autour de la table à 15h, voilà, ensemble. Donc ça, c'était un détail pratique, pas très très facile pour moi. Mais j'ai rencontré des gens aussi qui étaient très sympathiques. On pouvait parler directement de plein de choses, il n'y avait pas de moments où on est timide avant de se connaître, enfin on pouvait directement parler, c'était bien. Il faisait très très beau, j'ai pu aller à la plage tous les jours, j'ai testé plein de choses à manger, j'ai vu plein de belles choses aussi dans la région. J'étais dans la ville de Pontevedra en Espagne, donc en Galice, et je trouve que la ville est très jolie, d'autant plus que le centre-ville est piéton, ce qui est assez rare, et donc tous les matins, tous les gens vont à pied en marchant, et ça fait vraiment, ça rend le centre plus joli, je trouve. Voilà, et pour ce que j'ai découvert sur la culture, sur l'endroit, c'est à peu près ça. Et bon, sinon, si je devais y retourner, je négocierais mieux mes horaires et ce que je devais faire précisément, combien je dois être payée, parce que là, ça n'a pas vraiment été respecté. J'avais pas vraiment d'horaire et je ne savais pas vraiment quand est-ce que je devais aller m'occuper de l'enfant, quand est-ce que je pouvais prendre du temps pour moi. Et j'aurais préféré peut-être travailler plus, mais avec des horaires précis, que d'avoir un flou comme ça où je ne sais pas si je dois travailler, si je peux rester dans ma chambre. Parce que bon, ils avaient moins besoin que moi, je crois, d'être tout seul. Mais moi, j'aime bien aussi de temps en temps être tout seul et faire mes choses. Et donc, voilà, c'était pas facile.
Exercice 3. Vous allez entendre Elisa qui partage un appartement avec plusieurs personnes. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
J'habite à Vienne depuis octobre 2019. J'ai emménagé à Vienne parce que j'ai commencé mon nouveau travail. J'ai trouvé l'appartement vraiment au dernier moment. Je n'ai pas été très sérieuse pour chercher un appartement, malheureusement. Je l'ai trouvé sur Internet, sur WG-Gesucht, comme tout le monde, je pense. Je l'ai visité fin septembre, juste quelques, peut-être 30 minutes, c'était très rapide. La chambre m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que je trouvais que c'était assez petit. C'est un appartement où il y a 5 personnes, alors qu'il est vraiment très petit, trop petit, je pense même. La cuisine est assez étroite, on ne peut pas tous être dans la cuisine en même temps. Il n'y a pas de salon ou de pièce où on peut se mettre tous ensemble. Il y a juste la cuisine, une salle de bain, les toilettes et puis les 5 chambres. J'ai la chambre la plus grande, donc je n'ai pas trop de problèmes avec ça. C'est une chambre qui fait 13 mètres carrés. Je la trouve très jolie, elle est très lumineuse parce qu'il y a 2 fenêtres. J'ai tous les meubles qui sont déjà là, donc je n'ai pas eu besoin d'acheter des meubles dans un magasin, donc c'était assez facile pour moi d'emménager. C'est très proche de mon travail aussi, c'est dans le 10e arrondissement, donc il me faut seulement 10 ou 15 minutes pour aller au travail à pied. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'aime bien me réveiller tard et ne pas avoir à prendre le bus pendant une demi-heure. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet appartement. Donc j'ai 4 colocataires, on est 5 en tout. Elles sont très gentilles, mais elles font beaucoup de bruit. Et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que moi j'aime le calme, j'aime bien lire ou alors écrire ou préparer des cours. Et il me faut du calme. Et j'ai 2 colocataires qui parlent très très fort entre elles, qui écoutent souvent de la musique. Alors moi, je ne veux pas non plus être une dictatrice ou être trop méchante, donc je les laisse faire. Parfois, je leur dis est-ce que c'est possible de parler moins fort, mais je ne veux pas non plus être la méchante dans la colocation. Par contre, le soir, quand il est plus de 10 heures, c'est interdit de faire du bruit dans notre appartement, donc je leur rappelle que il faut parler moins fort et ne pas écouter de musique. Ça les fait un peu râler, mais c'est les règles, donc ce n'est pas juste si elles ne les respectent pas. Sinon, ça se passe plutôt bien. J'ai une colocatrice qui vient aussi d'Allemagne, donc je peux parler un peu allemand avec elle. Et c'est très sympa parce que moi, j'apprends l'allemand, donc ça me permet de pratiquer un petit peu. Elle est vraiment gentille. Parfois, on va au café ensemble, ou alors je cuisine quelque chose, comme des gâteaux, et je lui donne. Et elle en est toujours très contente, donc je pense qu'on est devenus très amis. Et malheureusement, elle s'en va en février, donc je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. J'habite à Vienne depuis octobre 2019. J'ai emménagé à Vienne parce que j'ai commencé mon nouveau travail. J'ai trouvé l'appartement vraiment au dernier moment. Je n'ai pas été très sérieuse pour chercher un appartement, malheureusement. Je l'ai trouvé sur Internet, sur WG-Gesucht, comme tout le monde, je pense. Je l'ai visité fin septembre, juste quelques, peut-être 30 minutes. C'était très rapide. La chambre m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que je trouvais que c'était assez petit. C'est un appartement où il y a 5 personnes, alors qu'il est vraiment très petit. Trop petit, je pense même. La cuisine est assez étroite. On ne peut pas tous être dans la cuisine en même temps. Il n'y a pas de salon ou de pièce où on peut se mettre tous ensemble. Il y a juste la cuisine, une salle de bain, les toilettes et puis les 5 chambres. J'ai la chambre la plus grande, donc je n'ai pas trop de problèmes avec ça. C'est une chambre qui fait 13 mètres carrés. Je la trouve très jolie, elle est très lumineuse parce qu'il y a 2 fenêtres. J'ai tous les meubles qui sont déjà là, donc je n'ai pas eu besoin d'acheter des meubles dans un magasin. Donc c'était assez facile pour moi d'emménager. C'est très proche de mon travail aussi, c'est dans le 10e arrondissement. Donc il me faut seulement 10 ou 15 minutes pour aller au travail à pied. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'aime bien me réveiller tard et ne pas avoir à prendre le bus pendant une demi-heure. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet appartement. Donc j'ai 4 colocataires, on est 5 en tout. Elles sont très gentilles, mais elles font beaucoup de bruit. Et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que moi j'aime le calme, j'aime bien lire ou alors écrire ou préparer des cours et il me faut du calme. Et j'ai 2 colocataires qui parlent très très fort entre elles, qui écoutent souvent de la musique. Alors moi je ne veux pas non plus être une dictatrice ou être trop méchante, donc je les laisse faire. Parfois je leur dis est-ce que c'est possible de parler moins fort, mais je ne veux pas non plus être la méchante dans la colocation. Par contre, le soir, quand il est plus de 10 heures, c'est interdit de faire du bruit dans notre appartement. Donc, je leur rappelle qu'il faut parler moins fort et ne pas écouter de musique. Ça les fait un peu râler, mais c'est les règles. Donc, ce n'est pas juste si elles ne les respectent pas. Sinon, ça se passe plutôt bien. J'ai une colocatrice qui vient aussi d'Allemagne. Donc, je peux parler un peu allemand avec elle et... c'est très sympa parce que moi j'apprends l'allemand, donc ça me permet de pratiquer un petit peu. Elle est vraiment gentille. Parfois on va au café ensemble, ou alors je cuisine quelque chose, comme des gâteaux, et je lui donne. Et elle en est toujours très contente, donc je pense qu'on est devenus très amis. Et malheureusement elle s'en va en février, donc je vais devoir trouver quelqu'un d'autre.
Exercice 4. Vous allez entendre Charlotte qui parle de sa passion pour la musique. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a un élément dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Je m'appelle Charlotte, j'ai 19 ans et j'ai commencé à faire de la musique il y a 13 ans. Le premier instrument que j'ai appris, c'était la flûte à bec. J'en joue toujours et c'est ma mère qui avait proposé de jouer de cet instrument. Parce que c'est un bon instrument pour commencer. Il y a beaucoup d'enfants qui apprennent pendant 1 ou 2 ans et après ils apprennent un autre instrument. Mais moi j'ai continué. Ensuite, j'ai quand même voulu jouer d'un deuxième instrument. Et comme mon père jouait de la guitare, j'ai voulu faire ça. Sauf que ma mère pensait que j'étais encore trop petite et qu'il n'y avait pas de petite guitare. Donc j'ai dû attendre d'avoir 11 ans pour pouvoir commencer. J'ai fait de la guitare pendant 4 ans à l'école de musique. Et ensuite, j'ai changé. Je suis allée dans un lycée de musique. Et au lycée de musique, on prend des cours au conservatoire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas école l'après-midi, donc on a beaucoup de temps pour jouer de son instrument et de pratiquer. Avec ces deux instruments, il y a plusieurs formations où on peut jouer. Donc avec la flûte à bec, il y a beaucoup de littérature pour jouer en groupe. J'ai joué en groupe à partir de ma deuxième année de flûte à bec, donc avec des filles qui avaient mon âge et qui étaient dans la même école de musique. Et ce groupe-là a souvent changé parce qu'il y avait toujours des jeunes qui ont arrêté ou qui ont commencé à jouer de la flûte. Et dès qu'ils étaient du même niveau, on a joué des morceaux ensemble. Et les cours, une fois par semaine, étaient toujours très rigolos. Et nous avons aussi participé à des concours ensemble. Avec la guitare, c'est un peu plus difficile. On fait surtout des morceaux en solo. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en duo avec d'autres instruments. Donc j'aime bien jouer avec des amis qui jouent de la flûte aussi ou qui font du chant. Et je peux aussi jouer en solo avec un orchestre. Le dernier concert que j'ai joué, justement, c'était en duo avec mon ami qui joue de la flûte. Et ce concert-là, on a participé parce qu'on avait déjà un morceau ensemble qu'on a joué il y a un an à un concours. Et comme on aimait beaucoup ce morceau, on a décidé de le rejouer et on s'est inscrite pour ce concert. Et voilà, quand on joue dans des instruments et qu'on aime bien les concerts, donc il faut s'y habituer. Souvent, on est nerveux, on a peur du concert, on a peur de présenter son morceau. Mais finalement, voilà, après beaucoup d'entraînement, j'aime bien. Et il y a aussi des concerts que je vais donner bientôt, justement avec un orchestre. Et voilà, comme j'aime beaucoup la musique et je vais passer mon bac bientôt, je vais continuer à faire des études de musique au conservatoire où je suis actuellement. Je m'appelle Charlotte, j'ai 19 ans et j'ai commencé à faire de la musique il y a 13 ans. Le premier instrument que j'ai appris, c'était la flûte à bec. J'en joue toujours et c'est ma mère qui avait proposé de jouer de cet instrument. Parce que c'est un bon instrument pour commencer. Il y a beaucoup d'enfants qui apprennent pendant 1 ou 2 ans et après ils apprennent un autre instrument. Mais moi j'ai continué. Ensuite, j'ai quand même voulu jouer d'un deuxième instrument. Et comme mon père jouait de la guitare, j'ai voulu faire ça. Sauf que ma mère pensait que j'étais encore trop petite et qu'il n'y avait pas de petite guitare. Donc j'ai dû attendre d'avoir 11 ans pour pouvoir commencer. J'ai fait de la guitare pendant 4 ans à l'école de musique. Et ensuite, j'ai changé. Je suis allée dans un lycée de musique. Et au lycée de musique, on prend des cours au conservatoire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas école l'après-midi, donc on a beaucoup de temps pour jouer de son instrument et de pratiquer. Avec ces deux instruments, il y a plusieurs formations où on peut jouer. Donc avec la flûte à bec, il y a beaucoup de littérature pour jouer en groupe. J'ai joué en groupe à partir de ma deuxième année de flûte à bec, donc avec des filles qui avaient mon âge et qui étaient dans la même école de musique. Et ce groupe-là a souvent changé parce qu'il y avait toujours des jeunes qui ont arrêté ou qui ont commencé à jouer de la flûte. Et dès qu'ils étaient du même niveau, on a joué des morceaux ensemble. Et les cours, une fois par semaine, étaient toujours très rigolos. Et nous avons aussi participé à des concours ensemble. Avec la guitare, c'est un peu plus difficile. On fait surtout des morceaux en solo. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en duo avec d'autres instruments. Donc j'aime bien jouer avec des amis qui jouent de la flûte aussi ou qui font du chant. Et je peux aussi jouer en solo avec un orchestre. Le dernier concert que j'ai joué, justement, c'était en duo avec mon ami qui joue de la flûte. Et ce concert-là, on a participé parce qu'on avait déjà un morceau ensemble qu'on a joué il y a un an à un concours. Et comme on aimait beaucoup ce morceau, on a décidé de le rejouer et on s'est inscrite pour ce concert. Et voilà, quand on joue des instruments et qu'on aime bien les concerts, donc il faut s'y habituer. Souvent, on est nerveux, on a peur du concert, on a peur de présenter son morceau. Mais finalement, voilà, après beaucoup d'entraînement, j'aime bien. Et il y a aussi des concerts que je vais donner bientôt, justement avec un orchestre. Et voilà, comme j'aime beaucoup la musique et je vais passer mon bac bientôt, je vais continuer à faire des études de musique au conservatoire où je suis actuellement.
C'est la fin du test de compréhension orale.